Maman, maman, la fille qui a été enlevée est revenue au village. Elle m'a raconté des choses terribles. Elle m'a dit qu'elle avait été violée. Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, très bien, je vais te le dire, dans ce cas. Un viol, c'est quand un homme oblige une femme à coucher avec lui. Mais les viols commis par les soldats japonais ne s'arrêtent pas là. La fille qui a été enlevée a été obligée de coucher avec beaucoup, beaucoup d'hommes.
Mais pourquoi enfin font-ils ça?
Les Japonais croient que violer des femmes les rend plus forts avant de partir au combat, les aide à gagner la guerre. Ils se croient autorisés à libérer leur énergie et à recevoir du plaisir, même lorsqu'ils se trouvent si loin de chez eux, puisqu'ils risquent leur vie pour l'empereur au combat. Ils en sont tellement convaincus qu'ils enlèvent nos filles et les envoient aux quatre coins du monde dans ce but-là. Cette fille qui a pu retourner chez elle, elle a eu beaucoup de chance. Vous venez d'entendre un extrait du roman de Marilyn Brash. Ce roman n'est malheureusement pas une fiction puisque l'écrivaine s'est inspirée du récit de sa propre mère qui était elle-même autrefois une femme de réconfort.
Malheureusement, c'est le tragique sort réservé aux 200 000 coréennes, taïwanaises, philippines et indonésiennes. C'était des jeunes filles qui ont été enlevées par l'armée impériale japonaise pendant la guerre d'Asie-Pacifique de 1931 à 1945 dans le but de servir d'esclaves sexuels. Elles étaient donc cloîtrées dans des maisons de réconfort ou des stations de confort. Donc vous l'aurez compris, c'est des jolis euphémismes pour définir des camps dans lesquels elles se faisaient violer de manière quotidienne. C'était souvent des jeunes adolescentes qui avaient entre 11 et 18 ans, qui étaient enlevées, arrachées de leur famille par les soldats japonais. Ce sont donc devenues des prostituées contre leur gré. Je vous laisse imaginer les conséquences désastreuses pour ces jeunes filles. À la fin de la guerre, elles ressortent de ces camps totalement traumatisées. Une ancienne femme de réconfort a témoigné comme quoi elle se faisait violer 15 fois par jour. C'est un calvaire tellement atroce que certaines filles mettent fin à leur jour. Certaines statistiques révèlent même qu'une fille sur 6 mourait dans les camps à cause des maladies vénériennes, mais aussi des coups, des mauvais traitements qu'elles subissaient, quand d'autres mouraient à cause des bombardements, puisque les stations de confort étaient situées à quelques mètres directement du front. Les soldats de l'armée impériale japonaise étaient quelquefois incités à se rendre dans ces stations de confort. On raconte que l'État avait lancé des superstitions comme quoi les rapports sexuels avec ces femmes de réconfort joueraient une sorte de charme, évitant les blessures au combat. Mais le cauchemar se termine à la fin de la guerre, mais pour ces survivantes, il reste des souvenirs terribles qui brisent la vie de ces jeunes filles. Et il faut savoir que dans les années qui suivent, la mémoire ne se développe absolument pas. Et l'une des raisons principales, c'est que la société coréenne est patriarcale et elle est absolument fermée sur les sujets de sexualité. Les femmes vont donc se murer dans le silence et c'est à la fin de leur vie que quelques-unes ont le courage de parler. On est en 1991, 50 ans presque après les faits, et une de ces femmes, Kim Ak-soon, ose parler publiquement de sa jeunesse saccagée et de sa vie brisée dans les camps. Et c'est ainsi que pour la première fois, le voile se lève et donne l'audace, le courage aux autres femmes de témoigner de leur expérience, puis après, pourquoi pas, d'attaquer en justice et de demander une reconnaissance. Et c'est au fil des années que le gouvernement coréen va entendre ces femmes. Ils vont donc demander la construction d'un lieu mémoriel avec une stèle, mais aussi une réparation de la part de l'État japonais avec des excuses publiques et un dédommagement financier. Et là, on rentre dans un conflit mémoriel puisque le Japon va complètement faire la sourde oreille, nier les faits. Pensez donc bien qu'avouer des faits atroces avec une nature tellement violente, cela ne va pas redorer l'image du pays et encore moins l'honneur qui est vraiment important dans la société japonaise. Néanmoins, c'est avec des personnalités comme Yoshimi Oshiaki, qui est un professeur d'histoire et qui publie en 1992 des documents prouvant que c'était bien l'État japonais qui avait organisé ce trafic de prostitution et non des particuliers, comme le prétendaient jusqu'alors les autorités japonaises. Des manifestations soutenues par les mouvements féministes ont lieu en Corée et elles militent pour une reconnaissance de ces femmes. Et petit à petit, on perçoit des tensions géopolitiques entre les deux pays. En 1993, le gouvernement japonais avoue avoir participé à cette histoire des femmes de réconfort. Mais il faut attendre 2015 pour qu'un accord diplomatique entre la Corée et le Japon règle cette affaire. Ce geste a été salué par l'ONU qui jusque-là essayait d'apaiser comme elle pouvait les tensions entre les deux pays. L'accord prévoit une reconnaissance par des excuses officielles de l'État japonais en plus d'une compensation financière d'environ 7 milliards d'euros. Cela met un terme sur ce conflit mémoriel par un accord diplomatique. C'est la fin de ma rubrique. Si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite fortement à lire le roman Les filles de la mer de Marilyn Bracht ou encore à écouter des témoignages de ces femmes de réconfort. Je dois à présent vous quitter, mais je vous remercie à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté.